personne ou presque ne sait raconter l'histoire d'Internet. En un demi-siècle, Internet s'est imposé comme une nécessité, comme une évidence, et parfois aussi comme un problème, une injonction, voire une menace. Internet est partout, mais son histoire, son fonctionnement, son essence ne sont visibles nulle part. Bienvenue dans une histoire politique d'Internet qui vous propose de remonter aux origines de ce réseau des réseaux et où l'on croisera des individus épris d'utopie et de liberté aux États-Unis, mais aussi des ingénieurs entêtés en France face au poids des télécoms, des chercheurs en ex-URSS essayant d'échanger avec le monde libre, ou encore, en Chine, des fonctionnaires obsédés par le contrôle de l'information. L'Europe crée le web, les États-Unis s'en emparent. Le web, c'est à la fois une utopie réalisée et un désenchantement de tous les instants. Au départ, le web est un projet dingue. Construire un système simple, gratuit et ouvert, permettant au plus grand nombre de bénéficier des promesses de l'Internet. Décentralisation de l'information, partage des connaissances, intensification des échanges. Quentin Jardon est l'auteur d'Alexandria, Les pionniers oubliés du web, un roman revenant sur la naissance, en Europe, de ce système inédit de partage d'informations. En 1989, à la création du web, Internet existe déjà. Les chercheurs du monde entier s'envoient des courriels à tour de bras. Mais le grand public, vous, moi, on est encore très loin d'avoir envie de se connecter au réseau.
Parce qu'en fait, avant l'invention du web, il y avait déjà la connexion au réseau, il y avait déjà Internet. Ça permettait de, surtout de transférer des fichiers en fait, d'un ordinateur à l'autre, d'un continent à l'autre. Mais il n'y avait pas l'interface de partage de savoir, de connaissances en temps réel, qui soit, comme je le disais, une expérience vraiment agréable. Aujourd'hui, quand vous naviguez sur le web, c'est quelque chose d'agréable. On a des belles pages graphiques, des images, du texte. C'est facile, on fonctionne par hyperlien, donc on saute d'un hyperlien à l'autre. On a l'impression de vagabonder dans un espace comme ça, sauvage, qui regorge d'informations, qui est super riche. Et ça, avant le web, ça n'existait pas, c'est difficile de le concevoir. Donc on était vraiment limité à du transfert de fichiers, quelque chose d'un peu froid. Et le web, c'est tout autre chose, quoi. C'est vraiment un monde à part entière et c'est ça que ça a permis, quoi. En fait, le web, ce sont les sites web, tout simplement. Et quand il n'y a pas de site web, Internet est beaucoup moins intéressant. Réfléchissez à ce que vous faites aujourd'hui sur Internet qui ne soit pas surfé sur des sites web. Il y a surtout les mails. Oui, vous utilisez des plateformes comme WeTransfer pour envoyer des fichiers d'un ordinateur à l'autre. Mais l'essentiel, en fait, ça se passe sur les sites web.
Le web est une invention qui a transformé nos vies. Tout le monde sait utiliser un navigateur, mais le plus souvent sans savoir d'où vient cet outil, ni même ce qu'il a changé dans nos usages. Ce qui est sûr, c'est qu'au tout début, cette histoire se passe en Europe, au CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire.
En fait, on a un jeune ingénieur britannique, Tim Berners-Lee, qui est extrêmement brillant, vraiment très très vif, super intelligent, qui est assez fasciné par la communication au réseau entre les ordinateurs et qui est surtout complètement affligé de voir que dans un centre à la pointe comme le CERN, les chercheurs doivent encore porter des lourds dossiers, des disquettes pour transférer des dossiers d'un ordinateur à l'autre au sein du même bâtiment. Donc il y a quelque chose qui lui paraît complètement absurde parce qu'il est aussi conscient de tout ce qu'il y a comme outils technologiques qui sont en train de se développer. Et donc, sur ses heures de loisir, il commence à bidouiller un document d'une vingtaine de pages qui doit présenter ce que va être le World Wide Web. On va dire que c'est l'architecture de base, elle est là, après il reste encore beaucoup de choses à peaufiner. Il le présente à son supérieur hiérarchique, c'est en mars 1989. Mais c'est tellement compliqué à comprendre que son boss, qui est pourtant tout à fait favorable à ce genre d'initiative, lui dit « Ok, c'est vague, mais ça a l'air excitant ». Il écrit ça sur le document « Vague but exciting ». Environ un an plus tard, le boss de Tim Berners-Lee le met en contact avec Robert Caillot en lui disant « Il y a ce Robert Caillot, là, cet informaticien belge qui apparemment travaille sur quelque chose assez semblable à la toi, alors associez-vous. » Et donc c'est le début d'un binôme vraiment très improbable entre Tim Berners-Lee et Robert Caillot, pas du tout les mêmes personnalités. Robert Caillot, lui, à la différence de Tim Berners-Lee, il parlait un peu plus calmement, il était un petit peu plus accessible dans son discours et donc souvent, ça faisait mouche, quoi, la différence de Tim Berners-Lee. On l'oublie, on ne l'a jamais su, mais le web, ça a mis 4 ou 5 ans avant de vraiment décoller. Il peut s'en désoler et se dire le CERN n'a rien pigé à louper le coche. Et puis d'un autre côté, il faut vraiment se replacer dans cette époque-là et dans le contexte des enjeux qui étaient importants pour le CERN et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Et le web faisait partie de ces non-enjeux parce qu'il n'y avait pas les clés de compréhension, il n'y avait pas le savoir autour de l'informatique. Et c'est pour ça que pour Tim et Robert, il y a eu 4 ou 5 années de grosses galères avant que le web ne décolle vraiment.
Et ce n'est qu'en 89,
Robert Caillot,
que Tim et moi-même, indépendamment dans des bâtiments à 2 km l'un de l'autre, ont proposé un projet justement pour créer une bibliothèque automatisée. On a fait ça typiquement dans des conditions que j'appellerais certainement pas commercial. Hein. Et pourquoi est-ce que le web a percé là où il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dessus? Les autres, par leur propre sophistication, se sont éteints. C'est une très belle phase parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'échelle. Et plus que vous mettez des fonctionnalités dans un hypertexte, moins qu'il peut pousser à n'importe quelle échelle. Et le web est donc l'hypertexte le plus cru, le plus stupide, le plus con qu'on peut imaginer, mais il a comme grande propriété qu'il n'est pas sensitif à l'échelle. Il peut, plus que vous mettez de serveur, mieux que ça va.
La force du web, c'est la simplicité de son usage. Internet, c'est l'interface technique, le web, la surface démocratique. Cette petite trouvaille va provoquer une accélération de l'histoire. Le sociologue Dominique Cardon en explique le fonctionnement.
Internet est le protocole, on va dire, des couches basses, de la connexion entre les infrastructures de réseau. Et on va créer des couches hautes, multiples, hein, dont le protocole du mail, SMTP en 73. Et puis Tim Berners-Lee et Robert Caillot, ils sont deux, il faut toujours dire les deux. C'est Tim Berners-Lee qui va hérité à juste titre hein, de l'invention, au CERN, en 1989-90, va inventer un protocole qui est très malin et très simple en réalité. Hein, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un système d'adressage entre les machines qui soit simple pour l'utilisateur, parce qu'en fait, ce qu'on adresse, c'est quelque chose qui est dans un texte avec un lien bleu qu'on va appeler le lien hypertexte. Et donc, on n'est plus en train d'appeler des machines dans le réseau, on est tout simplement en train d'appeler des informations parce qu'en cliquant sur un lien, on va chercher derrière la machine qui a la page du web qui est mise en place. Et donc c'est une révolution assez simple mais extrêmement forte parce qu'elle a une conséquence, c'est que n'importe qui peut utiliser ce système d'information qui pour les autres était un système d'information à ligne de commande quasiment et donc était réservé à des informaticiens.
Au CERN, en tout cas, on était surtout préoccupé par l'accélérateur de particules. Quant à la Commission européenne, contactée par le duo pour tenter de trouver des relais de financement pour continuer ses recherches, c'était loin, très loin de son univers.
À la Commission, on comprend un peu comme au CERN, en fait, à l'image du CERN, c'était trop technique, presque trop avant-gardiste pour les fonctionnaires de la Commission européenne ou même les experts plus IT. Et donc, Robert a eu un peu affaire à un mur. Il en était fort attristé parce que il est très attaché à l'Europe. Il a plus de mal avec la manière de fonctionner des Américains et donc il voulait que le cœur du web y batte encore en Europe. Il a tout fait pour que Jacques Delors, à l'époque président de la Commission européenne, le reçoive dans son bureau. Il lui a remis un dossier de 30 pages intitulé Alexandria, dans lequel il voulait la création d'une nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, mais alors qui serait entièrement digitalisée, mais où quand même on aurait sur le sol français, du coup, quelques infrastructures qui veilleraient justement à l'indépendance, l'autonomie du web, que ça préserve les idéaux qu'ils avaient imaginés au tout début. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se rendaient compte que le CERN ne voulait pas leur donner d'argent, ils devaient vaguement engager l'un ou l'autre stagiaire, ils travaillaient dans des couloirs comme des miséreux. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, Tim Berners-Lee a dit « Bon les gars, on va droit dans le mur, ce qu'on doit faire c'est mettre le code en accès libre, le code du web en accès libre pour que des chercheurs du monde entier, des étudiants, des gens qui ont un peu de temps, qui aiment bien coder, ils se mettent à améliorer le web tel qu'il existe aujourd'hui et à proposer des navigateurs, donc ce qui allait être plus tard Safari, Mozilla Firefox, Chrome, etc. pour qu'on puisse effectivement naviguer sur le web et que ce soit une expérience agréable. Et ça a été un coup de génie et aussi presque un coup altruiste, quoi, philanthropique, de dire ça doit pas être resté chez nous. Ce qu'il faut, c'est que cette invention, elle se développe ailleurs. On n'a pas les moyens ici, donc voilà, on vous l'offre entre guillemets. C'est là que on a cet étudiant Mark Andreessen, cet étudiant américain qui à 23 ans a créé Mosaic, qui était vraiment le premier navigateur populaire, agréable, et en quelques mois, ça a explosé. Et c'était le début. Et alors peut-être pour Tim Berners-Lee et surtout Robert Caillaux, le début de la fin, parce que il n'était pas trop d'accord avec l'usage que faisaient les Américains du web. Et voilà, ça, le futur ne leur a malheureusement que donné raison.
Le remède, c'est le poison. C'est une expression qu'on entend souvent quand on parle d'Internet. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Ceux qui ont sauvé le web l'ont emmené ailleurs. En quelques mois, on est passé d'un projet de navigateur artisanal développé au CERN à un logiciel installé par défaut par Bill Gates sur tous les PC équipés de Windows. Avec, entre-temps, l'émergence d'entrepreneurs comme Mark Andreessen, devenu l'une des plus grandes fortunes de la Silicon Valley.
Oui, alors ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, à l'université de l'Utah, Mark Andreessen a fait le premier navigateur qui va devenir en fait toute l'histoire de Netscape, Mozilla, Firefox. Mais ce qu'on peut dire, c'est effectivement, c'est qu'en 93-95, du fait de ces navigateurs qui apparaissent, et là, Microsoft va aussi développer son navigateur rapidement, du fait aussi des connexions qui arrivent dans les foyers, notamment des connexions ADSL, on est en train de passer d'un tout petit monde social, un petit monde social qui s'est déployé dans le monde à travers les réseaux universitaires et les réseaux des très grandes entreprises qui ont compris que le mail était un outil de communication formidable. Mais ça, c'était vraiment, voilà, on peut dire les années 90. Et à partir de 1995, on va voir se développer quelque chose qui n'est pas encore le grand public de très très loin, mais des gens qui sont très loin de ces mondes de l'informatique vont pouvoir se connecter chez eux depuis leur ordinateur. Ça fait depuis les années 80 qu'ils sont des ordinateurs personnels, mais tout d'un coup ils vont le connecter à leur réseau téléphonique. Et là va apparaître cette page du navigateur et la possibilité de naviguer et d'échanger des informations. C'est très lent, ça plante, il faut de la patience, mais bon... Mais bon, ça fonctionne.
Là où des décideurs européens ont vu, avant tout, un problème technique à gérer et coûteux à développer, les Américains du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, ont compris qu'il y avait, au contraire, une opportunité pour le siècle à venir. C'est un peu cliché, mais c'est comme ça que ça s'est passé.
Et donc le W3C, c'est le consortium qui naît de ces fameuses négociations entre le MIT, la Commission européenne et le CERN. Et le but de ce consortium, c'était d'être le garant de l'indépendance du web, de son non-morcellement, sa non-privatisation, on va dire. Un des problèmes, entre guillemets, en tout cas problème tel que perçu par Robert Caillaux en premier lieu, c'est que le siège de ce consortium est aux États-Unis. C'est vraiment le symbole que c'est maintenant les États-Unis qui décident, c'est eux qui font la pluie et le beau temps du web, même si, bien sûr, l'Europe est représentée au sein de ce consortium, qu'elle a son mot à dire. C'est quand même les grands entrepreneurs, le libéralisme à l'ère américaine qui va décider, et on va déjà avoir des Google, des eBay, des personnages comme Elon Musk qui vont très vite apparaître et qui vont comprendre tout le potentiel qu'il y a derrière.
L'Europe a peut-être mis du temps à réagir, c'est une chose. Les entreprises ont bâti des empires transfrontaliers, c'en est une autre. Mais il reste, à ce jour, des zones d'ombre entourant la naissance du web. Et la façon dont les négociations entre le MIT et le CERN ont pu conduire à une telle marginalisation de l'Europe. Et là, les archives n'ont pas encore parlé, mais ça ne saurait tarder.
Et donc c'est seulement, mais pour ce qui concerne la supposée Greek Connection et les négociations entre l'Europe et les États-Unis, année 93-94, il faut forcément attendre 2023-2024, donc on y est presque, pour que soit, théoriquement en tout cas, levé ce secret des archives. Alors on ne sait pas, il y aura peut-être quelques fanatiques des aficionados qui vont se ruer dans les caves du CERN, et peut-être que sera levé un coin du voile autour de cette fameuse, et alors je répète encore, hypothétique Greek Connection. En tout cas, on en saura plus sur qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que l'Europe a été trop naïve? Est-ce qu'elle s'est fait marcher sur les pieds par les États-Unis alors que c'est le vieux continent qui avait inventé le web?
La suite de l'histoire, on la connaît tous. La Silicon Valley, en Californie, devient en quelques années l'un des centres névralgiques des géants américains du numérique. On y croise plus seulement des informaticiens tendance hippie. Investisseurs, transhumanistes et entrepreneurs y associent leurs efforts pour bâtir des plateformes comme Google ou encore Facebook. Ces startups vont très vite se transformer en puissances technologiques capables de recentraliser nos communications et devenir des quasi-monopoles qui, aujourd'hui, menacent nos sociétés et nos libertés. Les enfants terribles des communautés. Retour à l'utopie. Quand on fait un peu d'archéologie, on comprend que bon nombre des désillusions viennent de loin. On peut commencer cette histoire par un personnage, Stewart Brand. Dominique Cardon a préfacé « Aux sources de l'utopie numérique », un ouvrage montrant que Stewart Brand va créer mais aussi populariser la notion de communauté.
Alors, Stewart Brand est un bon exemple, mais c'est simplement un individu typique qui illustre, en fait, un état d'esprit qui était collectif. Hein. Mais effectivement, Stewart Brand est une sorte d'agitateur, d'organisateur, de community organizer, on dirait dans le vocabulaire américain. Il a toujours organisé des trucs, il est toujours vivant et il est toujours en train d'organiser des choses. Hein. Il a beaucoup fréquenté et accompagné les projets de Ken Kesey avec le LSD qui devait augmenter l'esprit et l'effervescence collective. Et puis, il est arrivé dans le laboratoire du Stanford Research Institute de Doug Engelbart et il a regardé des chercheurs, il a vu l'ordinateur personnel arrivé, et il l'a vu comme un instrument politique. Et donc, il va l'accompagner, tout en accompagnant en même temps le développement des communautés hippie à travers un catalogue extrêmement célèbre aux États-Unis. Alors, on connaît pas ça, mal ça en France, une sorte de catalogue de la contre-culture, de savoir-faire, de recettes, de livres qu'on avait lus, de manières de vivre en commun, de toute une série de choses comme ça qui s'appelait le Wooler's Catalogue. C'est Stewart Brand qui va piloter à partir de 69 jusqu'à au milieu des années 70, ce développement de ce catalogue. En fait, c'est un collage de textes. Et beaucoup, du coup, se sont dit, ça ressemble en fait à une sorte de proto-internet, c'est-à-dire on navigue de textes épars entre eux, qui sont produits par la communauté, puis qui sont ajoutés dans l'édition suivante. Et puis, c'est dans ce catalogue qu'on va voir apparaître les premiers développements de ce qui est en train de se jouer dans des clubs d'amateurs, en réalité. Et là, on est toujours dans le milieu de la Silicon Valley autour de Stanford. Des clubs d'amateurs qui sont des chercheurs en informatique, des journalistes, des essayistes et surtout des membres de communauté. Ils sont en train de bidouiller des machines parce qu'ils sont en train de dire à l'industrie qui n'avait jamais pensé ça, en réalité. Qu'un ordinateur, ça doit être personnel et que ça doit pas être collectif. Pour eux, un ordinateur, c'était IBM, c'était la technoscience, c'était des grandes machines pour l'administration et pour les grandes entreprises. Voilà. Et eux, ils sont en train de dire non, l'ordinateur doit être un outil pour les individus.
And one of the reasons I did the whole Earth catalog is to maybe the way you sort of did some of these courses to learn about them.
C'est la grande particularité de Stewart Brand, c'est qu'il bouge beaucoup. Et il va aussi développer une communauté en ligne qui va être une des premières, c'est en réalité pas la première, hein. La première c'était Usenet, mais une communauté qui permet de connecter entre les ordinateurs via le nouveau protocole d'Internet, ça va apparaître au début des années 80, et avec des publics qui sont plus simplement des développeurs, avec des informaticiens, mais qui vont pouvoir être des journalistes, et toute cette communauté qui sort de la contre-culture. Et The Wooler's Electronic Catalogue, donc c'est la suite du catalogue, mais c'est sa version, on pourrait dire, en ligne, avec des gens qui sont derrière et qui sont les communautés hippies qui sont là. Et avec, alors c'est ça, là, que l'interprétation historico-culturelle est essentielle, c'est que en réalité, cette communauté qui arrive dans les années 80 pour se connecter devant les ordinateurs, c'est les anciens membres des communautés qui, au début des années 70, avaient essayé de vivre en vrai l'expérience de communauté, en vrai dans les forêts, en essayant de vivre en dehors de la société fordiste, mais en réinventant des formes de vie. On sait que ça s'est très mal fini, cette affaire. Et ce que fait The Well, c'est qu'il dit, bon, ça ne marche pas quand on le fait en réel, mais ça peut marcher en ligne. Et donc, ils ont dit, ce qu'on fait en ligne, c'est une communauté qui ne rencontrera pas les mêmes difficultés que celles des communautés réelles, précisément parce que l'anonymat est une manière de remettre à zéro le compteur des inégalités entre les vrais gens. Derrière un écran, chacun devient un avatar. Et c'est l'échange qui définit la hiérarchie.
Cette histoire-là, faite de belles idées, de nobles intentions, mais aussi de perspectives tronquées, nous poursuit. Et le passage à l'échelle, comme on dit, d'un club restreint d'amateurs à un monde global, ne va pas sans inconvénients ni dommages collatéraux, c'est peu de le dire.
Ces gens ont pensé qu'ils fabriquaient un modèle politique pour le cosmos. Il y a une grande idée New Age aussi à l'époque, hein, il y a le bouddhisme et tout ça. Mais en réalité, c'était un monde social extrêmement petit et restreint. Et oublier ça, c'est évidemment ne pas comprendre la suite des processus. Parce qu'ils sont, blancs, ils sont masculins, ils sont extraordinairement diplômés. Ils sont tous dans des professions symboliques. En réalité, ils manipulent des symboles, que ce soit du code ou de l'écriture. Et du coup, les formes de l'auto-organisation telles qu'ils vont être pensées, de la coopération qui vont être pensées, va nourrir fortement un modèle politique qui est un peu naïf. Parce qu'ils se rendent pas compte qu'il y a aussi des forces sociales, qu'il y a aussi des différences sociales dans la société, qu'il y a aussi des conflits extrêmement forts entre ceux qui ont beaucoup de ressources et ceux qui n'ont pas de ressources, qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle le marché. Et d'une certaine manière, ça a pas été intégré et ça va avoir une conséquence forte, à mon avis, c'est qu'on continue à valoriser ce modèle-ci quand la moitié de la planète est connectée à l'invention qui s'est mise en place et qui s'est déployée dans les années 70-80.
La création du web et des navigateurs ont permis une explosion du nombre d'internautes et une éclosion du nombre de sites et de blogs. Mais deux inventions vont venir à peu près tout modifier. Il y a d'abord eu Google à la fin des années 90. Ensuite, il y a eu Facebook en 2004. Son fondateur, Mark Zuckerberg, qui n'a rien d'un hippie ni même d'un activiste, n'a qu'un mot à la bouche, celui de communauté. Olivier Herzed est auteur, chercheur, mais c'est surtout le blogueur qu'on peut lire sur affordance.info. Et Facebook, ça fait des années qu'il s'y intéresse.
Alors la promesse de Facebook au tout départ, c'est d'être un site web qui permet de noter les plus belles filles du campus, hein, c'est quand même ça au départ. Et puis très vite, quand ça va commencer, ça va devenir un trombinoscope, hein, c'est le nom, c'est l'origine du nom, qui va se déployer à l'échelle des campus américains d'abord, puis en Europe, et puis ça va devenir ce qu'on appelle un réseau social, c'est-à-dire la promesse de rencontrer des gens différents et d'échanger avec des gens différents. Sauf que très vite, on va s'apercevoir que, pour plein de raisons, mais c'est l'inverse de cette promesse qui est d'abord une promesse marketing, et que au lieu de nous ouvrir sur toujours plus de diversité, de culture, de religion, d'opinion, etc., ces réseaux sociaux et notamment Facebook vont plutôt nous enfermer ou nous rapprocher de communautés qui sont déjà conformes à nos propres croyances, opinions, etc. Parce que, et là c'est pas la faute de Facebook, c'est une constante anthropologique, quand on se retrouve plongé au milieu d'une diversité totale et déstabilisante, on a toujours tendance, de manière assez grégaire, à se rapprocher de gens qui nous ressemblent. Et donc, majoritairement, dans ce qu'on appelle les usages standards, c'est plutôt des usages qui renvoient à ce que Elie Pariser a théorisé comme étant, par exemple, la bulle de filtre, c'est-à-dire le fait qu'on a toujours davantage tendance à cliquer ou à chercher des contenus qui vont nous conforter dans nos propres croyances. Et que comme l'objectif de l'algorithme de Facebook, mais de tous les médias sociaux, c'est de nous maintenir le plus captif possible en termes de temps d'attention, eh bien, ils ont intérêt à appuyer sur ce qui marche. Et ce qui marche, ce sont les contenus qui confirment nos propres pensées, opinions et croyances.
Ces réseaux sociaux ont des effets d'amplification et de distorsion qui nous éblouissent sans cesse. Résultat, au lieu d'élargir la République des lettres à celle des blogueurs et des lecteurs, au lieu de repousser le plus loin possible les frontières de l'espace public pour que chacun puisse s'informer et se déterminer, on se retrouve embarqué dans une vie démocratique de basse intensité. Facebook a mis un terme à l'une des promesses essentielles d'Internet, partager ses connaissances et échanger. Et au lieu de ça, on like.
Le web, dans l'esprit effectivement de ses fondateurs, et y compris d'ailleurs dans les tout premiers outils comme les navigateurs qui ont été développés, c'était à la fois un média de lecture et d'écriture. C'est une idée qui a été magnifiée avec Wikipédia, et c'est une idée qui a été totalement dévoyée avec ce que sont devenus les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, à l'intérieur desquels on peut bien sûr publier du contenu, hein, c'est même la base, mais où on n'a que très peu la main finalement sur la capacité d'éditer ce contenu. Souvent, c'est du contenu qu'on ne fait que republier, qu'on ne fait que reposter.
Ladies and gentlemen, Mark Zuckerberg.
Le modèle économique de Facebook est au cœur de cette inversion ou de cette trahison de l'histoire. La surveillance permanente de ses utilisateurs à des fins publicitaires conduit le réseau social à l'enfermer dans un espace sans porte ni fenêtre sur l'altérité. Un espace où les règles ne sont jamais complètement claires.
Depuis sa création, Facebook s'est construit en fait sur un paradoxe, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été totalement un espace privé et il n'a jamais été entièrement non plus un espace public. Ce qui va considérablement changer la donne ensuite, c'est l'effet de massification, c'est-à-dire que quand vous mettez plusieurs centaines de millions, voire 2 milliards de personnes agglomérées dans un même endroit, avec en permanence une ambiguïté sur le statut public ou privé de ce qu'ils y expriment, eh bien vous fabriquez en fait du trouble. Et en fabriquant du trouble, vous incitez les gens à dire de manière publique ce qu'ils auraient aimé peut-être qui reste à l'échelle de la sphère privée. Et inversement, vous allez aussi avoir des propos dont on aimerait qu'ils touchent la sphère publique, mais qui vont rester cantonnés à un très petit cercle d'amis sur ce réseau-là. Cette ambiguïté fondamentale sur ce qu'est un espace public d'expression, elle est renforcée par des modalités qui sont très particulières. Quand on communique sur Facebook, il y a un phénomène qui est ce qu'on appelle les audiences invisibles. Enfin, ça vaut pour la plupart des médias sociaux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les gens à qui on parle sont présents au moment où on s'adresse à eux. C'est la première fois, à l'échelle de l'humanité, qu'autant de gens parlent autant de fois sans aucune conscience de la présence des gens à qui ils s'adressent.
Tout a été construit et agencé sur Facebook pour maximiser les échanges, intensifier les messages, occuper les esprits et annexer, en fin de compte, le débat public à des fins publicitaires. Nous débattons le plus souvent au beau milieu d'un supermarché global où nos données personnelles sont mises à l'encan. Il y a bien eu cette période de grâce où Facebook incarnait la liberté à l'américaine. Le free speech empreint de panache et la démocratie pour tous. Sauf qu'avec le temps, on a commencé à mesurer les enjeux.
Oui, alors, bon, il faut faire beaucoup, beaucoup de reproches aux plateformes. Hein, donc, je ne cherche pas à diminuer leurs responsabilités. Mais en revanche, il y a une exagération incroyable de l'effet de ces manipulations qui ne sont observées nulle part dans la recherche et qui aboutissent à un raisonnement où on retrouve le déterminisme technologique dans l'affaire Cambridge Analytica, par exemple, c'est typique, c'est-à-dire on pense que les gens, et il faut bien entendre, les gens ont mal voté parce qu'ils ont été téléguidés par une opération absolument scandaleuse menée par Cambridge Analytica et la campagne de Donald Trump. Bon, la réalité, évidemment, c'est que les effets sont très très faibles de ces histoires de personnalisation. On a tous envie d'avoir peur de ce truc-là. Hein, et on a tous envie de dire c'est de la faute de la technologie, des réseaux sociaux et des mauvais acteurs qui sont derrière. Si on regarde de plus loin, c'est évidemment des phénomènes sociopolitiques beaucoup plus larges, et là, il faut regarder dans l'ensemble. Donc, en fait, le responsable, enfin, si on cherche un responsable, il n'y a pas de responsable, mais l'endroit où s'est joué la transformation des préoccupations publiques et de l'agenda public aux États-Unis, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur Fox News. Et c'est une compétition pour fabriquer le thème central de préoccupation des électeurs au moment où ils vont prendre leurs décisions. Donc là, on pourrait dire ça de la France, parce qu'on est en train d'avoir une micro-tentative aujourd'hui, c'est un peu, voilà, mais en même temps, c'est inquiétant. Vous avez des guerres sur Twitter, voilà, entre des camps extrêmement politisé de political junkies, ça ne change l'opinion de personne en fait. Mais en revanche, vous avez des rédacteurs chefs d'émissions de plateaux de télévision sur CNews ou bien Tout le monde en parle, qui font le programme de l'émission à partir de ces guerres. Et si les thèmes de ces émissions qu'essayent de mettre en place ces talk-shows commencent à devenir les thèmes centraux des grands médias d'information, c'est-à-dire les grands journaux de télévision et les grands journaux, effectivement, on a ce qu'on appelle un effet d'agenda, c'est-à-dire qu'on part de fake news, on transforme les fake news en quelque chose qui est une thématique, l'immigration est quelque chose d'important, et on transforme l'agenda politique et on dit l'immigration est le sujet de la campagne électorale. Et là, effectivement, il y a des effets politiques.
La bonne nouvelle, finalement, c'est que l'impact de ces gigantesques plateformes sur nos vies et sur nos sociétés n'est plus à démontrer. La candeur, l'innocence ou la naïveté, théoriquement, c'est fini. Mais dans les faits, évidemment, il reste beaucoup à faire. Facebook, empêtré dans une série de scandales en cascade, reste une entreprise extraordinairement rentable. À telle enseigne qu'on a parfois envie de se demander « Mais qui, finalement, gouverne le réseau des réseaux ?» Making love, the feeling of your skin, the corner of your eyes.
say goodnight, miracle goodnight. Oh, turn it around, make it all right. Miracle goodnight, turn it around, make it all right.
Vous écoutez France Culture.
Et y a-t-il un pilote dans le net ? L'histoire d'Internet est pleine de personnages hors normes. Aujourd'hui, on voit la toute-puissance d'une infrastructure mondiale. On voit un réseau présent partout dans nos vies, avec la moitié de l'humanité à bord. Mais pendant des années, une personne, aux États-Unis, en a géré le répertoire.
Ça, c'est une dimension très paradoxale.
Julien Nocetti.
Parce qu'on a d'un côté une technologie d'Internet qui a connu un essor progressif, mais tout de même assez fulgurant, et en même temps, jusqu'à la fin des années 90, jusqu'en 98, avec la création de l'ICANN, il y avait une gestion quasi manuelle de cette gouvernance technique.
Francesca Mousiani.
L'ICANN, c'est quelque chose qui a surgi une fois qu'on s'est rendu compte que l'Internet allait devenir quelque chose de très grand et dans le monde entier. Mais c'est commencé par une liste d'adresses maintenues de façon tout à fait en solo et artisanale par quelqu'un qui s'appelait John Postel.
The question is, how do we make sure that the right bits get to the right device coming from the right place with the right content.
Pendant quasiment 20 ans, avec évidemment un essor dans les 90, l'Internet fonctionnait grâce à une seule personne qui parvenait en fait à mettre les bonnes adresses au bon endroit.
Quand on se plonge dans l'histoire d'Internet, on peine à croire que les commencements ont été aussi précaires, que si peu d'individus aient pu permettre la construction d'une telle architecture globale. J'ai donc fait appel à deux chercheurs qui suivent de très près l'évolution de la gouvernance du réseau des réseaux. Julien Nocetti, expert en géopolitique, observe le jeu des grandes puissances. Francesca Mousiani s'intéresse quant à elle à ce que les spécialistes appellent la gouvernance par l'architecture et par l'infrastructure. Alors, en 2021, y a-t-il seulement un pilote dans le réseau ?
En 2021, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de steward, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de gouvernement d'Internet, plus précisément. Et ça, c'est lié à une spécificité majeure du réseau. Contrairement à d'autres technologies qui ont émergé au cours du XXe siècle, l'aviation civile, les télécommunications, où il y a des mécanismes de gouvernance très concrets qui ont été mis en place et qui sont aujourd'hui bien huilés. En 2021, pour l'Internet, il n'y a pas ce cas de figure. Parce qu'on est dans le cas d'une technologie qui, dès le départ, a été très décentralisée, qui a été voulue comme telle par les pionniers de l'Internet, en majorité californiens, qui, aussi par le biais d'une idéologie très libertarienne aussi, en partie hippie.
Alors, il n'y a pas un seul pilote de l'Internet, il y en a énormément qui pilotent des parties plus ou moins petites d'un système qui est complexe et qui l'est de plus en plus. Et il y a des pilotes qui sont institutionnels, soit les États qui souhaitent avoir leur rôle à jouer dans tout ça. Il y a des institutions qui ont été créées au fil des années vraiment ad hoc pour gérer spécifiquement l'Internet comme système sociotechnique très complexe. Il y a des pilotes qui sont plutôt dans le secteur privé, donc on parle beaucoup des fameux GAFA qui sont sans doute des acteurs centraux, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des entreprises beaucoup plus petites et beaucoup plus spécialisées qui ont aussi un rôle très important à jouer dans ce que nous appelons Internet aujourd'hui. Et puis il y a toute la société civile, nous les citoyens qui, sans être vraiment des pilotes de l'Internet, on peut avoir notre rôle à jouer dans certaines des questions politiques d'Internet.
Je n'ai jamais vraiment compris comment toutes ces parties parvenaient à s'entendre. Au tout début de l'Internet, on a principalement eu affaire à des arbitrages techniques entre des universités, des acteurs de la recherche et quelques entreprises. Mais avec le temps, plus nous étions nombreux dans le monde à nous connecter, plus il y a eu de protagonistes dans cette histoire.
Ce qui est une particularité, là aussi, de cette gouvernance de l'Internet, c'est que on a affaire à ce qu'on appelle, dans le langage parfois absconce de ces grandes enceintes internationales, à un modèle multi-acteurs ou multi-parties prenantes. C'est-à-dire que les États, les experts techniques, les scientifiques, la société civile, les entreprises seraient placés sur un même pied d'égalité et auraient une légitimité identique à débattre et à négocier les contours d'une gouvernance mondiale de l'Internet, comme on pourrait l'imaginer au sujet des océans ou de l'espace ou sur d'autres enjeux comme ça aussi très concrets. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'il y a eu différents cycles de négociations, en particulier au sein de l'ONU, dans toutes les années 2000, avec un premier cycle en 2003, un deuxième en 2005 à Tunis. C'est ce qu'on a appelé le sommet mondial sur la société de l'information, et qui, à l'époque, a placé les États, je dirais, un petit peu au sommet de la pyramide décisionnelle en matière de gouvernance. Sauf que, en pratique, à cette époque, les entreprises qui maîtrisent les réseaux, les communautés scientifiques et techniques, avaient une légitimité, enfin, très pratique, en fait, à débattre et à gérer techniquement au quotidien cette gouvernance de l'Internet. Donc c'est pour ça que c'est à partir de cette époque qu'il y a eu une tension toujours pas résolue aujourd'hui, en 2021, entre les États et entre le reste, finalement, de cette communauté Internet, entreprises, sociétés civiles et acteurs techniques.
Cette expression « communauté Internet » m'a toujours fasciné parce qu'on y décèle une aspiration, celle du dépassement des États. C'est une expression qui porte en elle comme un projet cosmopolitique. Pourtant, il faut bien des institutions pour faire tourner ce réseau des réseaux. Et forcément, ces institutions sont domiciliées quelque part. Exemple, avec l'ICANN, une organisation née en 1998 pour gérer les noms de domaine.
L'ICANN reste quelque chose de très important. L'ICANN est Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Donc, c'est la corporation, c'est une corporation d'ailleurs. Donc, c'est une association de droit privé. Cette entité a été créée vraiment sous l'égide des États-Unis et plus particulièrement d'une section du département de commerce des États-Unis. Et donc, voilà, ça, c'est un héritage qu'elle a amené au tournant du millénaire et qui a posé assez rapidement quand même souci à certains acteurs qui se sont dit l'Internet est quelque chose de mondial. À cette époque, on utilisait même des étiquettes du type Global Facility, une infrastructure qui était comme l'électricité, quelque chose qui devenait nécessaire à la vie de tous les internautes. Et donc, il fallait que ce soit quelque chose de plus multipartie prenante qui s'en occupait.
Ce serait fastidieux de revenir ici sur les enjeux de la réforme de l'ICANN. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu en quelque sorte un souhait partagé par la communauté Internet de s'émanciper progressivement de la tutelle, fût-elle lointaine, des États-Unis. Mais les révélations du lanceur d'alerte Edward Snowden, en 2013, ont à la fois noirci le tableau et compliqué la donne.
Ce que Snowden a montré, c'était les liaisons dangereuses État-secteur privé. Il a montré à quel point non seulement les États-Unis, les agences de renseignement et de surveillance américaines avaient établi une surveillance de masse sur l'Internet, mais aussi à quel point ça n'aurait pas pu se passer sans la collusion ou le consentement éclairé de la plupart des grands acteurs de l'Internet.
Du Brésil à l'Allemagne en passant par la France, nombre d'États se sont élevés contre les écoutes et la surveillance de masse pratiquées par l'agence de renseignement américaine, la NSA. Ces révélations n'ont pas complètement mis fin à un certain nombre d'ambiguïtés de la part des États. Edward Snowden vit quant à lui en exil depuis 2013 en Russie, ce qui peut sembler paradoxal. Quant à la Chine, elle porte désormais sur la scène internationale sa vision de la gouvernance de l'Internet.
Effectivement, la Chine ne partage pas du tout cette vision d'un Internet libre, ouvert, interopérable et résilient. Hein. Ça, ce sont les vocables là aussi très, très souvent utilisés dans les grands débats sur cette gouvernance mondiale d'Internet. La Chine, pendant très longtemps, a été relativement discrète au plan international, préférant laisser la place à la Russie dans la contestation au leadership américain. Parce qu'il a aussi s'est retrouvé dans d'autres enjeux de politique internationale, donc c'est pas propre à l'Internet, hein, j'insiste dessus. Mais la Chine a préféré se concentrer au départ sur la sécurisation de son propre cyberespace, avec un effort très particulier porté sur une politique de non-dépendance par rapport aux infrastructures physiques étrangères, américaines avant tout, autour de son territoire. Et tout ça s'est fait en parallèle d'un discours qui est monté en puissance et qu'on retrouve très bien aujourd'hui, hein, en 2021, par la voix du président Xi Jinping, qui cherche de plus en plus à dupliquer le modèle de gouvernance chinois par rapport à cette gouvernance mondiale de l'Internet. Et aujourd'hui, vous avez depuis 5 ans en Chine Forum mondial de l'Internet, dans la ville de Wuhan, à côté de Shanghai. Le président chinois s'y exprime aussi à chaque reprise. Et l'ambition est de porter un modèle de gouvernance différent, avec un accent très clair mis sur la notion de souveraineté de l'information, de souveraineté territoriale des États sur leur propre espace informationnel. Donc là aussi, les Chinois, comme les Russes, ne parlent pas de cyberespace ou très très peu, mais parlent d'espace informationnel, sous-entendu que l'information a davantage de valeur et de légitimité à leurs yeux à être contrôlée. Donc ça, ce sont des différences de perception, de conception très importantes entre les Chinois et les Occidentaux, et qui expliquent là aussi en bonne partie leur contestation par rapport aux modèles, aux approches portées par les Européens et les Américains.
Un modèle qui n'est pas sans séduire la Russie de Vladimir Poutine, qui, après des années de laisser-faire, s'efforce de reprendre la main sur son réseau. Mais ça, c'est Kevin Limonier, spécialiste du cyberespace russe, qui me l'explique.
Absolument, c'est la grande différence avec la Chine. Les grandes plateformes occidentales ne sont pas bloquées, à l'exception de LinkedIn, qui a un peu pris pour l'exemple, ou pris pour les autres, puisque LinkedIn, comme toutes les autres plateformes occidentales, ne respecte pas une loi russe de 2015 sur la localisation des données en Russie. C'est-à-dire que les données appartenant des citoyens russes doivent être localisées, stockées sur le territoire russe. Je veux dire, n'importe quel opérateur aujourd'hui est capable de bloquer un DNS, de dire, bon ben voilà, facebook.com n'est plus accessible. Mais en fait, généralement, ce genre de blocages sont très facilement contournables. Sauf que, et ça c'est très important, en 2019, une loi est passée, la loi FZ de 90, je crois, sur le Runet souverain, qui prétend donner au gouvernement les moyens techniques et juridiques de pouvoir, eh bien, contrôler, filtrer exactement ce qui entre et ce qui sort du territoire russe, d'une part, et d'autre part, de pouvoir déconnecter la Russie du reste du monde en cas de menace extérieure, sans perturber le trafic des données en interne de la Fédération de Russie. Et en fait, ça implique une réorganisation en profondeur, eh bien, des routes de l'Internet au niveau de la Russie. Parce que le gouvernement russe n'a pas planifié, n'a pas géré le développement d'Internet en Russie, qui s'est de fait développé de manière complètement anarchique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le réseau russe est un des plus complexes du monde, si ce n'est le plus complexe du monde, le plus compliqué, en fait, à comprendre, et le réseau sur lequel il y a le plus de chemins de traverse, de systèmes autonomes, sur lesquels on peut, à partir desquels on peut passer. Bref, c'est un environnement extrêmement hostile pour toute entité qui veut le contrôler.
Assiste-t-on finalement à un retour des États et des frontières géographiques sur le net?
Oui, moi j'ai aussi envie de dire que c'est discutable. Il n'y a jamais été un moment où voilà l'emprise des États était complètement absente, même pas le fameux âge du cyber-exceptionnalisme. Là, on voyait déjà que ça allait pas se passer comme ça. Il y a eu quelques décisions centrales comme ce tribunal français qui avait décrété qu'il fallait que Yahoo enlève des sites qui hébergeaient des souvenirs nazis sur certains de leurs sites. Voilà, ça c'était un des cas et ça s'était passé encore avant 2000. Donc voilà, on voyait déjà que les juridictions n'allaient pas disparaître comme ça. Par contre, c'est sûr qu'avec ces stratégies de souveraineté numérique, et là on peut aussi parler de ce que l'Europe et de ce que certains de ses États membres, à commencer par la France, appellent la souveraineté numérique, le fait de promouvoir des solutions cloud qui seraient respectueuses dès leur conception du règlement général sur la protection des données, par exemple, on voit très bien quelle serait la souveraineté là-dedans. Toutes ces tendances-là, ça va dans le sens de réaffirmer la présence des États dans ces questions-là, qui ne passeraient pas que par les institutions internationales créées ad hoc pour gérer la gouvernance de l'Internet, mais qui reviendraient vraiment au pouvoir étatique direct.
Une réaffirmation du pouvoir des États qui n'est pas dénuée d'ambiguïté. Une tentation, au terme de ce voyage dans le temps, se dire que la messe est dite. Que l'utopie Internet est depuis le début une chimère. D'un côté, les puissances de l'argent se sont emparées de nos données personnelles tout en amplifiant le pire de nos conversations. De l'autre, des pays comme la Chine ou la Russie qui veulent contrôler le moindre murmure sur le réseau. Et l'Europe, entre deux feux et deux visions, qui tente de faire respecter des règles sur des infrastructures dont elle ne maîtrise pas le code. Et si, finalement, Internet n'était dès le départ qu'un outil de plus pour contrôler les populations ?
January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
« Internet, vie ou mort d'une utopie. Automne 2021. Facebook tombe en panne pendant près de 6 heures et c'est comme si Internet venait de disparaître. Que nous dépendions tous pour nos conversations d'un seul acteur est une perspective effrayante. Ne pouvait-on l'anticiper ? Dès 1984, les acteurs du numérique sont lucides. Le pire n'est peut-être pas assuré, mais il reste toujours possible. D'ailleurs, 1984, ce n'est pas une date anodine dans cette histoire. C'est ce que rappelle le chercheur Félix Tréguer dans son livre « L'utopie déchue », une contre-histoire d'Internet, 15e, 21e siècle.
En janvier 1984, lors de la finale du Super Bowl aux États-Unis, les dirigeants d'Apple demandent à Ridley Scott de réaliser un spot publicitaire pour le Super Bowl pour faire la pub du nouvel ordinateur, du nouveau micro-ordinateur que Apple s'apprête à lancer, le Macintosh. Et donc on voit une lanceuse de marteau pénétrer dans une salle de cinéma dans laquelle se trouvent de nombreux hommes zombies rivés devant un gigantesque écran depuis lequel Big Brother s'adresse à eux. Et cette lanceuse de marteau athlétique court dans la salle et lance son marteau qui virevolte et vient fracasser ce gigantesque écran. Et le spot publicitaire d'Apple se termine sur la phrase suivante.
Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Avec Apple, vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984. Le roman dystopique de George Orwell, grâce à l'ordinateur d'Apple, on va casser et renvoyer aux poubelles de l'histoire ces machines technocratiques extrêmement centralisées qu'étaient encore les ordinateurs à l'époque.
Difficile de dire aujourd'hui si 2021 ressemble à 1984. Pour tenter d'y voir clair, sans doute faut-il reprendre les choses calmement, loin des zombies et des écrits dystopiques. Jean-Christophe Plantin, chercheur à la London School of Economics, s'intéresse depuis des années à la matérialité des réseaux.
Internet est basé sur des réseaux, des câbles, des modems, des routeurs, etc. Un exercice que je fais avec mes étudiants, en début d'année, je leur demande quelle est la part d'Internet qui provient des communications par satellite. Typiquement, il y a une très très grande partie de mes étudiants qui pensent que Internet provient des satellites, alors que plus de 95% de la connexion Internet qu'on utilise de tous les jours proviennent des câbles sous-marins.
Rien de plus matériel que l'Internet. Tout commence par là, par les câbles et par la géographie dont on va voir qu'elle est déterminante. Au départ, on l'a vu, le réseau des réseaux a suscité de folles attentes. Comme si la politique, à l'heure du numérique, pouvait se transformer radicalement. Comme si nos sociétés, nos individualités, tout allait en quelque sorte s'émanciper de la matérialité des corps et des réseaux. C'est d'ailleurs tout le sens et toute l'ambiguïté du mot cyberespace inventé par William Gibson en 1984.
Alors William Gibson, c'est un écrivain de science-fiction qui est l'inventeur du terme cyberespace qui allait faire florès. Et en fait, à l'époque, à la fin des années 80, résume un peu le sentiment de nombreux hackers et militants. Internet, puisqu'il est en son cœur même, à travers ses protocoles, fondé sur une architecture acentrée, sans centre de commandement, disons, et puisqu'il est aussi, d'un point de vue, disons, social et de ses usages, approprié par toute une élite, notamment les hackers militantes et subversives, Internet est assimilé à un événement anarchiste et donc peut-être le vecteur d'une révolution proprement politique.
Évidemment, en 2021, on est loin de cette géographie éclatée sans centre ni périphérie. À tous les niveaux, de l'infrastructure au moteur de recherche en passant par les réseaux sociaux, nous sommes cernés. Des oligopoles comme Facebook ou encore Amazon sont apparus. Les États s'équipent désormais pour se faire la guerre dans le cyberespace. Sans qu'on sache très bien si l'on a encore prise sur le réseau des réseaux. J'ai posé la question à Kaveh Salamatian, qui étudie depuis des années les réseaux.
La question de la liberté sur Internet est une question de lutte de pouvoir. C'est comme la liberté dans l'absolu. Et cette lutte de pouvoir, elle n'est pas perdue, elle n'est pas gagnée. C'est une lutte de tous les instants et de tous les jours. On ne peut pas dire que dans l'histoire, on a toujours avancé vers plus de liberté. Il y a eu des moments où il y a eu des reculs, il y a eu des moments où on a réavancé. Donc, c'est une question éminemment politique, éminemment stratégique qu'il faut se poser là. Et c'est du ressort et de la responsabilité de tous les citoyens de se poser cette question. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment l'absence de discours politique qui est le principal risque.
Pour nos libertés sur Internet.
Voilà.
Kaveh Salamatian a raison. Internet est une chose trop sérieuse pour être confiée à des experts. On a déjà parlé dans ce podcast de la dangereuse montée en puissance des géants du numérique qui ont littéralement annexé et recentralisé le débat public. Mais que se passe-t-il au niveau de l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler la couche basse? Si Internet, c'est le lien, son support, c'est avant tout le câble. La géographie des câbles, avec ses autoroutes et ses zones délaissées, peut nous aider à comprendre ce qui se joue ces dernières années. Jean-Christophe Plantin décrit bien l'évolution de la tectonique des câbles.
Si l'on regarde de manière globale, ce qu'on voit, c'est environ 400 câbles sous-marins qui sont distribués tout autour du monde. La très très grande majorité est traditionnellement entre pays du Nord. Ce sont souvent des compagnies qui sont des entreprises du secteur des télécommunications. Donc ça, c'est ce qui existe depuis très longtemps. Ce qu'on voit de manière plus récente, c'est une augmentation de l'activité, notamment au niveau des BRICS. L'Inde, la Chine, même le Brésil développent de plus en plus, créent des nouveaux pôles d'attractivité, si vous voulez, un changement au niveau de la géographie globale. Et la deuxième tendance de fond que l'on voit depuis les années 2000 est la part de plus en plus importante que prennent les géants du numérique dans la construction de nouveaux câbles, dans la mise en place de nouvelles lignes.
Si les géants du numérique se mettent à contrôler les câbles, leur intérêt est-il nécessairement le nôtre?
Facebook ou Google ont, depuis une dizaine d'années, mis énormément d'importance à développer leurs centres de données, avoir des centres de données hyper performants, mais dépendre de l'Internet public pour faire communiquer les données entre eux. C'est pas forcément le plus cohérent. C'est la raison pour laquelle donc ils ont ce réseau séparé, privé. Bien évidemment, il y a des jonctions avec l'Internet public parce que nous utilisons bien évidemment ces services. Ce qui se fait de manière plus commune, c'est acheter des fibres obscures, c'est-à-dire des câbles qui ont été déjà posés mais qui ne sont pas exploités. Donc, certains acteurs, par exemple jeux vidéo, peuvent utiliser ces câbles et les exploiter pour leur compte.
Internet est donc de moins en moins ouvert, avec, qui plus est, l'apparition de zones en circuit commercial fermé. Les GAFAM, pour ne citer qu'eux, ont annexé le débat public, les voici donc qui créent leur propre route. Mais Internet est aussi devenu un territoire hautement stratégique, où les États entendent bien y exercer leur puissance et leurs prérogatives. Kevin Limonier, spécialiste du cyberespace russophone, le démontre en prenant l'exemple de la Russie et de la Crimée.
Nous, ce qu'on essaye de faire dans notre laboratoire, c'est de cartographier ces chemins de l'Internet. Et on s'est rendu compte que depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, depuis le début de la guerre civile dans l'est de l'Ukraine, il y avait une modification de la structure du routage des données dans ces régions-là au profit de la Russie. C'est-à-dire que, en gros, la Crimée, le réseau criméen est en train de se faire complètement avaler par le réseau russe, ce qui veut dire qu'il y a eu des actions qui ont été entreprises pour déconnecter la Crimée de l'Ukraine. Peut-être pour des questions de sécurité nationale, même sans doute. Et en Ukraine orientale, donc dans le Donbass, c'est la même chose. On voit en fait une espèce de ligne de front numérique qui bouge et qui aujourd'hui est une des dimensions de ce combat et de cette guerre civile qui a lieu dans cette région du monde. Et donc effectivement, aujourd'hui, si vous voulez prendre le contrôle d'un territoire, il faut aussi prendre le contrôle de la projection de ce territoire dans ce qu'on appelle la datasphère. C'est-à-dire justement ce nouvel environnement stratégique dans lequel nous vivons et nous baignons de plus en plus, notamment du fait de la pandémie, puisque à chaque fois que nous échangeons un paquet de données, à chaque fois que nous envoyons un mail, faisons un zoom ou ce que vous voulez, nos données passent par quelque part. Il y a des goulots d'étranglement stratégique. Et les États, aujourd'hui, sont dans une compétition pour contrôler ces goulots d'étranglement stratégique, de la même manière qu'au XXe siècle, on était en compétition pour contrôler certains détroits stratégiques ou certaines ressources.
Est-ce à dire qu'un Internet ouvert et libre, c'est bel et bien terminé? Que tout est privatisé, morcelé, que les silos sont légion et la surveillance partout. Puisqu'on parle de géographie, et puisque c'est un mot lourd de sens, est-ce que l'avenir d'Internet, c'est finalement sa balkanisation?
La balkanisation telle que nous la définissons aujourd'hui, c'est l'essai de faire rentrer le djinn
Kaveh Salamatian
dans la bouteille. C'est-à-dire l'Internet a fait sortir la communication de structures étatiques et la transformer en communication qui traverse les frontières, et vous voulez faire de nouveau rentrer dans la bouteille. En Chine, le djinn n'est jamais sorti de la bouteille. D'autres pays veulent essayer de le faire. Les Iraniens ont réussi à le faire après 10 ans de travaux et de nouveau avoir un contrôle complet fin de leur réseau. Les Russes sont en train de se bagarrer depuis quelques années pour essayer de le faire et ce n'est pas du tout clair est-ce qu'ils vont réussir à le faire. En France, on a des velléités de vouloir le faire. Maintenant, est-ce que le djinn va rentrer dans la bouteille? Ça dépend de la bouteille, ça dépend du djinn.
C'est avec ce genre d'image qu'on mesure que la fin de l'histoire n'est pas encore écrite. Mais surtout, que la voie est étroite. On a longtemps cru que le cyberespace était un lieu d'exception. À l'heure où l'on parle de reprise de contrôle, de régulation, d'encadrement, où fixer le curseur? Le sociologue Dominique Cardon explique bien le type de dilemme auquel nous sommes confrontés en prenant l'exemple des plateformes comme Facebook. Réguler, c'est nécessaire, mais il ne faudrait pas qu'on en profite pour imposer une vérité.
Les plateformes ont bénéficié d'une immunité juridique extrêmement forte. Elles n'étaient pas responsables des contenus qu'elles abritaient. Bon, ce qui leur a donné une grande liberté qui était très utile au développement du numérique. Aujourd'hui, un peu dans l'idée de refermer le couvercle, là, on est en train de dire, non, en fait, les plateformes sont des médias, elles doivent être responsables du contenu. Et donc, on a une tentation quand même de vouloir reprendre toute une série de propos. Les plateformes édictent des chartes qui sont complètement privées. Elles essayent de plus en plus de les aligner sur les règles du droit mise en place par les États. Alors on pourrait dire, je le dis un peu naïvement, on pourrait dire ça va quand c'est l'Europe, mais comment ça se passe? Et ça se passe comme ça quand c'est aux Philippines, en Thaïlande, où on a des injonctions étatiques données à Facebook de censurer certains types de propos. Alors, il est très important de réguler les plateformes sur les mécanismes algorithmiques, sur les mécanismes d'amplification, de pouvoir faire de la rétro-ingénierie, d'auditer le fonctionnement des plateformes. Je suis plus inquiet quand c'est les États qui disent il faut censurer tel ou tel type de propos, ou bien quand on a vu ça en France, on a eu une proposition de loi sur la désinformation. Il me semble que c'est pas au droit ou aux États de dire quelles sont les informations qui sont vraies et qui sont fausses et de demander d'effacer le faux. Voilà, ça peut être liberticide.
Au terme de ce parcours, pas facile de trouver la voie. Félix Tréguer fait partie de ceux qui plaident pour une désescalade technologique, avec un souhait que l'on sorte du fétichisme de la technique pour se recentrer sur les usages et la liberté.
L'utopie Internet, moi en tout cas, ce qui me semble important à préserver, ce sont des usages médiatiques, utiliser ces technologies pour communiquer. Mais l'informatique aujourd'hui, elle sert à bien plus que nous permettre de nous exprimer, elle sert à nous administrer. Et que ces usages-là, on pourrait sans doute faire sans et qu'on s'en trouverait sans doute plus heureux, plus épanoui, plus émancipé et moins en prise avec un mode de gestion de société de masse assez déshumanisant. Et donc, il faut commencer par changer le monde et notre système politique.
Pour ma part, je ne peux pas me résoudre à penser que tout est à jeter, que nous sommes à jamais perdus dans un cyberespace miné de partout, transformé en cimetière de nos libertés et de nos démocraties. À cet égard, et s'il ne devait rester qu'un signal pour nous indiquer que rien n'est perdu, c'est peut-être celui-ci. J'ai toujours été fasciné par Wikipédia, que je consulte très souvent, comme nous tous, et qui résiste étonnamment bien, même en temps d'incertitude, comme on a pu le voir pendant la pandémie, avec des articles sur le Covid-19 plutôt bien tenus. Mais pourquoi finalement? Olivier Herzed.
Parce que Wikipédia est un espèce d'îlot d'espoir dans cet océan de fake news, de contre-vérité, de complotisme, etc. Parce que simplement, il n'y a pas de publicité, et parce que simplement, c'est une gestion collective. Ils sont suffisamment nombreux, et avec des rôles suffisamment clairs et attribués, pour être en capacité de fabriquer quelque chose de commun. Le succès de Wikipédia, c'est ça. C'est pas de publicité, une gestion par une communauté nombreuse, hiérarchisée et qui fabrique du commun.
C'était Une histoire politique d'Internet de Julien Lebotte. Réalisation Clotilde Pivin. Mixage Claude Niort.